Mais il reste possible qu'il n'ait lieu qu'à l'état de folie. Si par lui-même il n'est pas une vésanie spéciale, il n'est pas de forme de vésanie où il ne puisse apparaître. Ce n'en est qu'un syndrome épisodique, mais qui est fréquent. Peut-on conclure de cette fréquence qu'il ne se produit jamais à l'état de santé et qu'il est un indice certain d'aliénation mentale? La conclusion serait précipitée. Car si, parmi les actes des aliénés, il en est qui leur sont propres et qui peuvent servir à caractériser la folie, d'autres, au contraire, leur sont communs avec les hommes sains, tout en revêtant chez les fous une forme spéciale. A priori, il n'y a pas de raison pour classer le suicide dans la première de ces deux catégories. Sans doute, les aliénistes affirment que la plupart des suicidés qu'ils ont connus présentaient tous les signes de l'aliénation mentale. Mais ce témoignage ne saurait suffire à résoudre la question. Car de pareilles revues sont beaucoup trop sommaires. D'ailleurs, d'une expérience aussi étroitement spéciale, on ne saurait induire aucune loi générale. Des suicidés qu'ils ont connus et qui, naturellement, étaient des aliénés, on ne peut conclure à ceux qu'ils n'ont pas observés et qui pourtant sont les plus nombreux. La seule manière de procéder méthodiquement consiste à classer, d'après leurs propriétés essentielles, les suicides commis par les fous, de constituer ainsi les types principaux de suicides vésaniques et de chercher si tous les cas de mort volontaire rentrent dans ces cadres nosologiques. En d'autres termes, pour savoir si le suicide est un acte spécial aux aliénés, il faut déterminer les formes qu'il prend dans l'aliénation mentale et voir ensuite si ce sont les seuls qui l'affectent. Les spécialistes se sont un peu attachés, en général, à classer les suicides d'aliénés. On peut cependant considérer que les quatre types suivants renferment les espèces les plus importantes. Les traits essentiels de cette classification sont empruntés à Jousset et à Moreau de Tours. 1. Suicide maniaque. Il est dû soit à des hallucinations, soit à des conceptions démentes. Le malade se tue pour échapper à un danger ou à une honte imaginaire, ou pour obéir à un ordre mystérieux qu'il a reçu d'en haut, etc. Mais les motifs de ce suicide et son mode d'évolution reflètent les caractères généraux de la maladie dont il dérive, à savoir la manie. Ce qui distingue cette affection, c'est son extrême mobilité. Les idées, les sentiments les plus divers et même les plus contradictoires se succèdent avec une extraordinaire vitesse dans l'esprit des maniaques. C'est un perpétuel tourbillon. À peine un état de conscience est-il né qu'il est remplacé par un autre. Il en est de même des mobiles qui déterminent le suicide maniaque. Ils naissent, disparaissent ou se transforment avec une étonnante rapidité. Tout à coup, l'hallucination ou le délire qui décide le sujet à se détruire apparaissent. La tentative de suicide en résulte. Puis, en un instant, la scène change et, si l'essai avorte, il n'est pas repris, du moins pour le moment. S'il se reproduit plus tard, ce sera pour un autre motif. L'incident le plus insignifiant peut amener de ces brusques transformations. Un malade de ce genre, voulant mettre fin à ses jours, s'était jeté dans une rivière généralement peu profonde. Il était à chercher un endroit où la submersion fut possible, lorsqu'un douanier, soupçonnant son dessein, le couche en joue et menace de faire feu de son fusil s'il ne sort pas de l'eau. Aussitôt, notre homme s'en retourne paisiblement chez lui, ne songeant plus à se tuer. Suicide mélancolique. Il est lié à un état général d'extrême dépression, de tristesse exagérée qui fait que le malade n'apprécie plus sainement les rapports qu'ont avec lui les personnes et les choses qui l'entourent. Les plaisirs n'ont pour lui aucun intérêt. Il voit tout en noir. La vie lui semble ennuyeuse ou douloureuse. Comme ses dispositions sont constantes, il en est de même des idées de suicide. Elles sont douées d'une grande fixité et les motifs généraux qui les déterminent sont toujours sensiblement les mêmes. Une jeune fille, née de parents sains, après avoir passé son enfance à la campagne, est obligée de s'en éloigner vers l'âge de 14 ans pour compléter son éducation. Dès ce moment, elle conçoit un ennui inexprimable, un coup prononcé pour la solitude, bientôt un désir de mourir que rien ne peut dissiper. Elle reste pendant des heures entières immobile, les yeux fixés sur la terre, la poitrine oppressée, et dans l'état d'une personne qui redoute un événement sinistre. Dans la ferme résolution de se précipiter dans la rivière, elle recherche les lieux les plus écartés afin que personne ne puisse venir à son secours. Cependant, comprenant mieux que l'acte qu'elle médite est un crime, elle y renonce pour un temps. Mais au bout d'un an, le penchant au suicide revient avec plus de force, et les tentatives se répètent à peu de distance l'une de l'autre. Souvent, sur ce désespoir général, viennent se greffer des hallucinations et des idées délirantes qui mènent directement au suicide. Seulement, elles ne sont pas mobiles comme celles que nous observions tout à l'heure chez les maniaques. Elles sont fixes, au contraire, comme l'état général dont elles dérivent. Les craintes qui hantent le sujet, les reproches qu'il se fait, les chagrins qu'il ressent sont toujours les mêmes. Si donc ce suicide est déterminé par des raisons imaginaires, tout comme le précédent, il s'en distingue par son caractère chronique. Aussi est-il très tenace. Les malades de cette catégorie préparent avec calme leurs moyens d'exécution. Ils déploient même dans la poursuite de leur but une persévérance et parfois une astuce incroyable. Rien ne ressemble moins à cet esprit de suite que la perpétuelle instabilité du maniaque. Chez l'un, il n'y a que des bouffées passagères sans cause durable, tandis que chez l'autre, il y a un état constant qui est lié au caractère général du sujet. Suicide obsessif. Dans ce cas, le suicide n'est causé par aucun motif, ni réel ni imaginaire, mais seulement par l'idée fixe de la mort qui, sans raison représentable, s'est emparée souverainement de l'esprit du malade. Celui-ci est obsédé par le désir de se tuer, quoiqu'il sache parfaitement qu'il n'a aucun motif raisonnable de le faire. C'est un besoin instinctif sur lequel la réflexion et le raisonnement n'ont pas d'empire, analogue à ces besoins de voler, de tuer, d'incendier dont on a voulu faire autant de monomanie. Comme le sujet se rend compte du caractère absurde de son envie, il essaye d'abord de lutter. Mais tout le temps que dure cette résistance, il est triste, oppressé, et ressent au creux épigastrique une anxiété qui augmente chaque jour. Pour cette raison, on a quelquefois donné à ce genre de suicide le nom de « suicide anxieux ». Voici la confession qu'un malade vient faire un jour à Brière de Boismont, et où cet état est parfaitement décrit. « Employé dans une maison de commerce, je m'acquitte convenablement des devoirs de ma profession. Mais j'agis comme un automate, et lorsque m'adresse la parole, elle me semble résonner dans le vide. Mon plus grand tourment provient de la pensée du suicide dont il m'est impossible de m'affranchir un instant. Il y a un an que je suis en butte à cette impulsion. Elle était d'abord peu prononcée. Depuis 2 mois environ, elle me poursuit en tout lieu. Je n'ai cependant aucun motif de me donner la mort. Ma santé est bonne. Personne dans ma famille n'a eu d'affection semblable. Je n'ai pas fait de pertes, mes appointements me suffisent et me permettent les plaisirs de mon âge. Mais dès que le malade a pris le parti de renoncer à la lutte, dès qu'il est résolu à se tuer, cette anxiété cesse et le calme revient. Si la tentative avorte, elle suffit parfois, quoique manquée, à apaiser pour un temps ce désir maladif. On dirait que le sujet a passé son envie. Suicide impulsif ou automatique. Il n'est pas plus motivé que le précédent. Il n'a aucune raison d'être, ni dans la réalité, ni dans l'imagination du malade. Seulement, au lieu d'être produit par une idée fixe qui poursuit l'esprit pendant un temps plus ou moins long et qui ne s'empare que progressivement de la volonté, il résulte d'une impulsion brusque et immédiatement irrésistible. En un clin d'œil, elle surgit toute développée et suscite l'acte ou, tout au moins, un commencement d'exécution. Cette soudaineté rappelle ce que nous avons observé plus haut dans la manie. Seulement, le suicide maniaque a toujours quelques raisons, quoique déraisonnables. Il tient aux conceptions délirantes du sujet. Ici, au contraire, le penchant au suicide éclate et produit ses effets avec un véritable automatisme, sans être précédé par aucun antécédent intellectuel. La vue d'un couteau, la promenade sur le bord d'un précipice, etc., font naître instantanément l'idée du suicide, et l'acte suit avec une telle rapidité que, souvent, les malades n'ont pas conscience de ce qui s'est passé. Un homme cause tranquillement avec ses amis, tout à coup il s'élance, franchit un parapet et tombe dans l'eau. Retiré aussitôt, on lui demande les motifs de sa conduite, il n'en sait rien. Il a cédé à une force qui l'a entraîné malgré lui. Ce qu'il y a de singulier, dit un autre, c'est qu'il m'est impossible de me rappeler la manière dont j'ai escaladé la croisée et quelle était l'idée qui me dominait alors. Car je n'avais nullement l'idée de me donner la mort, ou du moins, je n'ai pas aujourd'hui le souvenir d'une telle pensée. À un moindre degré, les malades sentent l'impulsion naître, et ils réussissent à échapper à la fascination qu'exerce sur eux l'instrument de mort en le fuyant immédiatement. En résumé, tous les suicides vésaniques ou sont dénués de tout motif, ou sont déterminés par des motifs purement imaginaires. Or, un grand nombre de morts volontaires ne rentrent ni dans l'une ni dans l'autre catégorie. La plupart d'entre elles ont des motifs et qui ne sont pas sans fondement dans la réalité. On ne saurait donc, sans abuser des mots, voir un fou dans tout suicidé. De tous les suicides que nous venons de caractériser, celui qui peut sembler le plus difficilement discernable, de ceux que l'on observe chez les hommes sains d'esprit, c'est le suicide mélancolique. Car très souvent, l'homme normal qui se tue se trouve lui aussi dans un état d'abattement et de dépression, tout comme l'aliéné. Mais il y a toujours entre eux cette différence essentielle que l'état du premier et l'acte qui en résulte ne sont pas sans cause objective, tandis que chez le second, ils sont sans aucun rapport avec les circonstances extérieures. En somme, les suicides vésaniques se distinguent des autres comme les illusions et les hallucinations des perceptions normales et comme les impulsions automatiques des actes délibérés. Il reste vrai qu'on passe des uns aux autres sans solution de continuité, mais si c'était une raison pour les identifier, il faudrait également confondre, d'une manière générale, la santé avec la maladie, puisque celle-ci n'est qu'une variété de celle-là. Quand même on aurait établi que les sujets moyens ne se tuent jamais et que c'est à la seule se détruisent qui présente quelques anomalies, on n'aurait pas encore le droit de considérer la folie comme une condition nécessaire du suicide. Car un aliéné n'est pas simplement un homme qui pense ou qui agit un peu autrement que la moyenne. Aussi, n'a-t-on pu rattacher aussi étroitement le suicide à la folie qu'en restreignant arbitrairement le sens des mots. « Il n'est point homicide de lui-même, s'écrie Esquirol. Celui qui, n'écoutant que les sentiments nobles et généreux, se jette dans un péril certain, s'expose à une mort inévitable et sacrifie volontiers sa vie pour obéir aux lois, pour garder la foi jurée pour le salut de son pays. » Et il cite l'exemple de Décius, de Lassas, etc. Falleret de même refuse de considérer Curtius, Codrus, Aristodème comme des suicidés. Bourdin étant la même exception à toutes les morts volontaires qui sont inspirées, non seulement par la foi religieuse ou par les croyances politiques, mais même par des sentiments de tendresse exaltée. Mais nous savons que la nature des mobiles qui déterminent immédiatement le suicide ne peuvent servir à le définir ni par conséquent à le distinguer de ce qui n'est pas lui. Tous les cas de mort qui résultent d'un acte accompli par le patient lui-même avec la pleine connaissance des effets qui en devaient résulter présentent, quel qu'en ait été le but, des ressemblances trop essentielles pour pouvoir être réparties en des genres séparés. Ils ne peuvent en tout état de cause constituer que des espèces d'un même genre. Et encore, pour procéder à ces distinctions, faudrait-il d'autres critères que la fin, plus ou moins problématique, poursuivie par la victime. Voilà donc au moins un groupe de suicides où la folie est absente. Or, une fois qu'on a ouvert la porte aux exceptions, il est bien difficile de la fermer. Car entre ces morts inspirées par des passions particulièrement généreuses et celles que déterminent des mobiles moins relevés, il n'y a pas de solution de continuité. On passe des unes aux autres par une dégradation insensible. Si donc les premières sont des suicides, on n'a aucune raison de ne pas donner aux secondes la même qualification. Ainsi, il y a des suicides, et en grand nombre qui ne sont pas vésaniques. On les reconnaît à ce double signe qu'ils sont délibérés, et que les représentations qui entrent de cette délibération ne sont pas purement hallucinatoires. On voit que cette question, tant de fois agitée, est soluble, sans qu'il soit nécessaire de soulever le problème de la liberté. Pour savoir si tous les suicidés sont des fous, nous ne nous sommes pas demandé s'ils agissent librement ou non. Nous nous sommes uniquement fondés sur les caractères empiriques que présentent à l'observation les différentes sortes de morts volontaires.